Ici Radio Terre. Radio Terre, ici Radio Terre.
Allô les rats? Ici la Terre.
Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Galère, vous écoutez l'émission Ici Radio Terre.
L'émission qui déconstruit la construction.
On va vous parler de construction, de bâtiments, d'habitation, de logements. Bref, des façons de construire et d'habiter, de leurs impacts sur l'environnement et la société. Depuis toujours, on construit avec ce qu'on a autour de nous, sous nos pieds.
Mais ça a bien changé.
Comment sommes-nous passés d'une pratique collective, où l'habitat était un prolongement du paysage car toujours fait avec les matériaux de proximité, à un des secteurs les plus polluants et aux conditions de travail les plus rudes?
En effet, en France, le BTP émet à lui seul 23% des gaz à effet de serre. Et on y compte un accident de travail toutes les 2 minutes.
Mais comment pourrions-nous nous inspirer de ce que nous savions faire de bien avant pour imaginer un monde meilleur?
Nous vous proposons ici d'y réfléchir ensemble.
Mais nous, c'est qui?
Mais nous, c'est la briqueterie artisanale Rat de Terre. On fabrique des briques de terre crue, aussi appelées adobe.
Mais pas que!
L'adobe, c'est le premier matériau de construction préfabriqué inventé par l'homme. Elle nécessite très peu d'outils.
On peut même la faire uniquement à la main.
Les techniques de construction en terre crue font leurs preuves depuis plus de 10 000 ans et pourraient apporter beaucoup de réponses à nos problèmes actuels.
Vous l'avez compris, ici on aime beaucoup la terre crue, mais on n'est pas là pour faire du lobbying. On est là car on pense qu'à travers nos façons de construire et d'habiter, se cachent nos façons d'évoluer en tant que société.
Et si on veut construire un monde meilleur, commençons par construire de bonnes maisons.
Pleine de terre!
Rebonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Ici Radio Terre, l'émission qui déconstruit la construction, comme vous l'avez entendu dans le générique. Nous sommes sur les ondes de Radio Galère 88.4. Et voilà, nous sommes trois sur le plateau. L'émission est proposée par la briqueterie Rat de Terre, dont nous sommes tous partis. Donc il y a à côté de moi Vincent et Léa.
Salut.
Salut Roms.
Petit mot sur la briqueterie et pourquoi cette émission?
Ouais, carrément. Briqueterie Rat de Terre, deux volets. La production de matériaux et la sensibilisation, notamment à travers des ateliers. Et aujourd'hui, cette émission qu'on essaye de mener à bien.
Voilà, donc une première émission pour nous où on va parler des constructions en terre crue, mais voilà, on va vraiment essayer dans le profond de la terre crue.
Ouais, on aime beaucoup la terre crue, comme on l'a dit dans le générique, mais on va pas vous parler tout le temps de terre crue sur cette émission. Mais ce premier épisode, vous allez quand même le faire pour notre petite préférée, la terre crue. Voilà.
Et on va partir du secteur du BTP, du bâtiment et travaux publics, dans lequel on a entendu dans le générique qu'il y avait quand même quelques chiffres à l'appui qui montraient que c'était quand même plutôt polluant.
Ouais, c'est bien vrai. Enfin, c'est ce qu'on disait dans le générique, je crois déjà, qu'il y a 23% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du secteur du bâtiment. Et du coup, en fait, il faut voir le secteur du bâtiment au sens large. En fait, on parle de l'extraction des matériaux, à la production de ces matériaux, à leur mise en œuvre, à comment on va vivre dans les bâtiments jusqu'à en fait la démolition des bâtiments.
Du coup, c'est assez large. C'est-à-dire, quand on parle de la création des matériaux, du coup, c'est par exemple les carrières.
Ouais, c'est l'extraction déjà de la matière première, et ensuite il y a sa transformation. Donc, quand dans les matériaux récent, il y a souvent de la cuisson à très haute température, on dépasse les 1000 degrés, 1400 degrés, donc c'est très très énergivore et très polluant.
Ouais, du coup les bâtiments récents, c'est un peu ce qu'on voit généralement, c'est du ciment.
C'est ça, c'est du ciment. Je crois que le ciment, on a aussi un chiffre, c'est 8% de la pollution mondiale, c'est juste le ciment, donc c'est même pas le... Donc c'est...
assez conséquent.
Plutôt conséquent.
Carrément. Et après avoir fait la création de ce matériau, c'est quoi les étapes après qui sont polluantes ?
Déjà, il y a pas mal de transport pour acheminer les matériaux jusqu'aux espaces de mise en œuvre.
Parce que du coup, les carrières, elles sont loin par rapport aux endroits où on va construire.
Ça dépend, parce que les carrières de cimenterie, il y en a quand même pas mal, on va pas se mentir. Mais malgré tout, on fait beaucoup voyager les matériaux.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit 23% des gaz à effet de serre sont liés au secteur du BTP, donc c'est, on va dire, un quart de la pollution en France, c'est le bâtiment. Mais le bâtiment, c'est quoi ? Ben, c'est le bâtiment quand on le construit. Pour le construire, il faut des matériaux, donc c'est comment est-ce qu'on extrait, comment est-ce qu'on produit ces matériaux, comment on les met en œuvre, et ensuite comment on vit dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de se chauffer, on va avoir besoin de se chauffer,
et de se refroidir,
voilà, quand il fait trop chaud. Et après, ces bâtiments, une fois qu'ils ont vécu et qu'ils sont à l'état de déchet, ben on va être obligé de les... Comment est-ce qu'on traite en fait ce déchet ? Donc c'est tout un complexe, il y a plusieurs étapes, et c'est tout ça qui fait que c'est un quart de la pollution quasiment en France.
Et du coup, ce à quoi on voudrait réfléchir, c'est du coup essayer de repenser à ce cycle global un peu de la construction et à se dire qu'on est face aujourd'hui à des manières de construire en fait qui sont pas forcément cohérentes face aux enjeux actuels et notamment aux enjeux environnementaux. Et du coup, en fait, il existe des solutions via l'utilisation d'autres matériaux. Et donc c'est pour ça qu'on a envie de parler un petit peu plus de la terre crue aujourd'hui.
C'est toute une logique en fait qu'on va essayer de déconstruire.
Mais juste aussi dans les logiques polluantes, par exemple, là, tu as parlé du chauffage et autres, du coup, c'est ce qu'on termine un peu comme le fait de devoir chauffer abondamment quand on est dans un bâtiment en ciment.
Ouais, en ce moment, on entend beaucoup parler du terme de passoire thermique. On commence à se rendre compte que les bâtiments... Il faut faire des bâtiments plutôt qui vont plutôt garder la chaleur, emmagasiner l'énergie, que des choses qui sont très très qui vont vite perdre la chaleur qu'ils ont en eux, et du coup on va venir chauffer beaucoup ou climatiser, donc on va mettre de l'air frais à l'intérieur qui va cracher du chaud à l'extérieur, et on rentre dans des logiques, encore une fois c'est toute une logique, tout un système qui est pas vertueux.
Ouais, aujourd'hui les grosses problématiques, on voit qu'il y a vraiment ces problématiques d'isolation, où on vient réisoler les bâtiments, ouais. Et aussi où on vient reventiler et souvent poser des climatisations ou ce genre de choses-là pour faire face à des problèmes qu'on a nous-mêmes créés, quoi.
Et la dernière phase dont vous parliez qui était très polluant, c'était plutôt du coup le fait que c'est des matériaux jetables. Du coup, là, le ciment, en fait, une fois qu'il est plus très utile, on en fait quoi en fait ?
Mais c'est ça, c'est une logique très court-termiste en fait. Le ciment, on construit, on en a pour 40-50 ans, et après ça vieillit mal, donc qu'est-ce qu'on fait ? On démolit et on remet du ciment derrière, et on repart pour 40-50 ans. C'est court-termiste, extractiviste, encore une fois la logique derrière qui est pas bonne, mais qui profite à certains.
Du coup, là, nous, dans cette émission, on va un peu parler de la terre crue qui répond du coup à certaines de ces problématiques.
À beaucoup même. C'est sur plein d'aspects du bâtiment, ça, la terre crue peut intervenir.
Et c'est quoi, du coup, la terre crue ? Enfin, qu'est-ce qu'on veut dire par terre crue ?
Ben, la terre crue, du coup, c'est une matière qu'on peut trouver partout... autour de nous, littéralement sous nos pieds. En fait, la terre crue, c'est la terre qui est en profondeur. Donc, quand on va creuser, on va extraire de la terre. Donc, souvent, on creuse pas mal pour réaliser les fondations. Donc, toutes ces terres d'excavation profondes, on va pouvoir les utiliser. Et donc, cette terre, on prend la terre profonde, tout simplement parce qu'on ne va pas utiliser en fait, la terre végétale, qui est la terre du dessus, qui est vivante, ce qu'on va pouvoir plutôt utiliser pour cultiver. Et du coup, on va parler vraiment de cet horizon de terre profonde quand on parle de construction en terre crue. Et cette terre crue, elle est composée de pas mal d'éléments, et notamment des cailloux, des graviers, des sables, des limons, et aussi des argiles. Et c'est souvent ces argiles qui nous intéressent, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire le liant, la colle, en fait, en quelque sorte, et qui va nous permettre de créer des matériaux de construction intéressants. Après, il faut savoir qu'il existe un grand nombre de terres hyper variées. La terre 3 mètres plus loin, ça ne sera pas la même. Donc, c'est des méthodes qui sont assez difficiles à créer une recette universelle, on va dire. Et la terre crue aussi, c'est elle qui va un peu nous dicter comment on va construire, puisque du coup, il y a plein de méthodes constructives différentes. Et du coup, on ne construira pas pareil selon la composition de notre terre.
Et là, tu nous as parlé de l'argile en tant que colle. Mais un truc que j'ai pas très bien saisi, c'est que tu parlais d'horizon. Genre moi, si j'ai un jardin, je peux du coup faire de la terre crue avec.
Alors faire de la terre crue avec un jardin.
Alors avec la terre de mon jardin,
avec
pardon.
Avec la terre du jardin. Mais non, comme disait Léa, tu as ta terre de ton jardin, la première couche, tu vas plutôt t'en servir pour faire pousser des choses dedans. Et si tu vas l'utiliser pour la construction, tu vas avoir peut-être des problèmes de... En fait, ta matière organique va pourrir pendant ta mise en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on va sur l'horizon en dessous. Et en fait, ce qui est merveilleux dans l'horizon en dessous, c'est qu'on a... Donc pour la petite leçon de construction, on aime bien... Dans le béton, en fait, on a une charge et un liant. Donc communément, on a ce qu'on appelle le béton. C'est du béton où le liant, c'est le ciment, c'est lui qui va faire la colle. Et la charge, ça va être le sable de carrière. Et en fait, sous nos pieds, on a un béton. Qui est un béton de terre, puisque la colle, ça va être l'argile, et notre charge, ça va être le sable, les graviers qu'on va trouver. En fait, la terre, c'est du sable et de l'argile, enfin du sable, des graviers, donc des grains, une charge, de la roche, en fait, quelque chose de dur et de, comment dire, d'inerte, et l'argile qui va être qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, c'est des petites plaquettes, et en fait, ces plaquettes, elles vont réagir avec l'eau. Je crois que c'est de l'ordre du nanomètre, l'argile. Et les seules choses qui peuvent venir entre les plaquettes d'argile, ce sont les molécules d'eau. Et donc, avec simplement de l'eau, on va changer l'état de notre terre, la rendre souple. Et au séchage, elle va redevenir dure. Donc, il n'a pas fallu longtemps pour l'humanité pour se dire ça peut être pas mal de construire avec. Et ça fait plus de 10 000 ans que ça dure.
Voilà, du coup, ça fait une matière en fait qui devient plutôt dure, d'où les briqueteries, enfin les briques qui sont faites à la briqueterie, elles sont faites de cette manière-là.
Carrément.
Et du coup, avec une brique, c'est bien, mais ça ressemble à quoi en fait un bâtiment en terre?
Ça peut prendre plein de formes, plein d'aspects différents. Ça dépend de la terre, ça dépend, comme disait Léa, la méthode qu'on utilise en fonction de la terre qu'on a.
C'est vraiment la terre qui va nous dicter en fait comment on va construire et pas l'inverse. Du coup, va falloir analyser la terre. Donc ça peut se faire de manière assez empirique par des petits tests assez simples pour savoir quelle est la composition de la terre qu'on a avec nous, voir un petit peu sa cohésion, etc. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer la méthode constructive. Donc, comme disait Vincent tout à l'heure, la terre crue, c'est un des plus anciens matériaux de l'histoire de l'humanité. Donc, il existe des bâtiments très anciens qui sont en terre. Donc, je pense notamment à la muraille de Chine, qui est très, très grande. Et du coup, il y a des parties qui sont en pierre, mais des parties qui sont en terre, tout simplement parce qu'on a construit avec ce qu'on avait sous les pieds. Et après, à l'échelle plus de la France, il y a quand même 15% du bâti qui est en terre crue. Donc, c'est quand même pas rien.
Et il y a des exemples de constructions du coup, encore existantes en terre crue, comme vous le dites, mais vous voyez ça où, vous ?
Alors, il y a plusieurs régions qui sont où ils utilisent pas mal la terre crue, mais je trouve un exemple parlant, c'est les maisons à colombage. Donc, ces maisons où on va voir des sortes de croix en bois, des maisons un peu quadrillées avec un quadrillage en bois et des croix. Ça, en fait, à l'intérieur, c'est de la terre. Donc, ça, c'est la méthode du torchis. Donc c'est plus du bois avec ensuite un tressage de bois encore plus petit. Et on va venir faire des torches, donc de la terre et de la fibre, souvent de la paille, des choses comme ça, qu'on va venir enrouler autour de ce bois.
Du coup, là, pour le coup, ils ont utilisé cette méthode parce que, justement, dans ces régions, donc plutôt vers Grand Est, vers Strasbourg et vers le Pays Basque, ben, du coup, il y avait de la terre qui s'y prêtait, donc c'est-à-dire une terre plutôt avec un peu de l'argile.
Ils avaient du bois aussi, ils avaient des forêts.
Et du bois, ouais. Et à l'inverse, ben, par exemple, plus dans le centre, en Rhône-Alpes, on va trouver plutôt des bâtiments en pisé. Du coup, le pisé, c'est une autre technique où là, on va avoir plutôt une terre qui va avoir une grande variété de grains différents, plein de petits graviers, des cailloux, du sable, etc., et un petit peu d'argile. Et du coup, on va venir en fait comprimer cette matière pour venir en fait organiser les grains et en faire quelque chose de très résistant. Donc ça, on retrouve pas mal, surtout dans les milieux ruraux, où on peut voir des fois en bord de route encore des fermes ou des bâtiments comme ça, en pisé, ça se reconnaît bien parce qu'en fait, on voit qu'il y a des strates un peu...
Voilà. Mais c'est vrai que quand tu dis à quoi ça ressemble un bâtiment en terre, c'est vrai qu'au début, quand on pense bâtiment en terre crue, on pense souvent quelque chose de très rustique, un peu écrasé, enfin un tas de terre, une maison de hobbit. Mais en fait, ça peut faire des maisons tout à fait conventionnelles, et notamment les immeubles de Croix-Rousse à Lyon, qui ressemblent à un immeuble lambda, mais ce sont des bâtiments en terre crue.
Ok, et on a déjà parlé dans l'émission plusieurs fois de briques. Est-ce qu'il y a des exemples de ce qu'on appelle l'adobe ?
Ouais, tout à fait. Ben, on retrouve historiquement plutôt des bâtiments en briques de terre, plutôt dans la région de Toulouse. On utilisait du coup plutôt cette technique-là. Donc on avait été face à une terre qui était plutôt argileuse, du coup, ce qui permettait de faire des briques. Et on retrouve un peu... des bâtiments aussi en terre crue, pas mal en Bretagne, où là on utilise la bauge. En fait, ça va être un peu le même système que les briques, sauf qu'en fait on va pas venir préfabriquer un matériau et on va monter directement les murs avec des petits bâtons de terre crue.
Mais oui, mais moi ça me fait un peu peur quand même. Je me dis que on entend souvent cette question-là, mais s'il pleut.
Bah ouais, en Bretagne il pleut. Comment ils font avec la terre crue?
Ben mince.
Mince, on n'y avait pas pensé. Je pense qu'on peut arrêter l'émission ici. Et non, en fait, la pluie, ça c'est pas le plus gros ennemi de la terre crue. Donc déjà parce qu'on va mettre un bon toit et un bon soubassement. Donc le soubassement, c'est la partie qui va être reliée au sol, en fait. Donc on va un peu surélever le mur en terre crue pour éviter qu'il ait les pieds dans l'eau. Donc on appelle ça d'avoir des bonnes bottes et un bon chapeau, comme quand il pleut, ben on aime bien avoir les pieds et la tête au sec. Après, bon, s'il nous arrive un peu d'eau sur les vêtements, c'est pas très grave. Et donc ensuite, la pluie va juste éroder à la limite, comme en Bretagne, par exemple, où il pleut vraiment beaucoup. On voit des vieilles fermes, mais qui ont plus de plusieurs centaines d'années, où c'est la première partie du mur qui est un peu érodée à force de 365 jours de pluie par an. Mais pas la structure même, quoi.
En fait, il faut vraiment protéger des remontées capillaires et des infiltrations au niveau de la toiture. Et à partir de là, le bâtiment, il peut être hyper pérenne, il peut durer des milliers d'années. Il y a des exemples de construction qui durent depuis très très longtemps, comme on disait la muraille de Chine, par exemple. Mais il y a des villes entières qui ont été construites en terre crue. Je pense à un exemple, c'est la ville de Shibam au Yémen, si jamais vous voulez aller regarder sur internet. C'est vraiment toute une ville faite de terre avec des immeubles qui font plusieurs étages et qui existent depuis plusieurs siècles.
Mais de ce fait, on a parlé un peu de la situation actuelle et du problème climatique, pour après dire que peut-être qu'il y avait des solutions avec la terre crue, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là, en fait? Pourquoi il y a eu pourquoi actuellement, en fait, on construit plus tout en terre crue, hein?
Bonne question.
Si vous voulez, on peut écouter peut-être notre... on a fait un petit reportage d'un historien, on va dire, non, de plutôt, disons, d'un...
D'un doctorant chez Crater, qui s'appelle Julien Nourdin, et qui va nous expliquer justement un petit peu cette histoire de comment on a perdu les savoir-faire, et aussi à quel moment ces savoir-faire sont revenus un petit peu sur le devant de la scène.
J'ai fait un travail justement d'historique, à la fois par un inventaire de bâtiments produits par la filière et aussi un travail plutôt de littérature, revue de littérature, qui m'a permis d'établir une frise chronologique des événements pour comprendre un peu mieux factuellement ce qui a été fait et pourquoi on en est progressivement arrivé à la situation qu'on connaît aujourd'hui. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, il y a eu une phase d'apogée après la Révolution française, on va dire. C'était un outil d'émancipation du peuple contre la noblesse pour se réapproprier le matériau qu'ils avaient à leurs pieds. Ça s'est développé avec les travaux aussi de François Cointreau, un maçon qui s'est autoproclamé constructeur architecte, qui a monté une école à Paris, enfin, assez intéressant aussi. Et tous ces travaux-là, ils ont été très très publiés aussi à l'étranger, c'est ce qui explique pourquoi on construit. Alors lui était fan de Pisé, donc il y a beaucoup de Pisé qui s'est construit ailleurs qu'en Rhône-Alpes à ce moment-là. C'est pour ça qu'on retrouve quelques traces en Normandie.
Tu peux nous rappeler le nom de ce livre ?
Alors si je ne sais plus le nom du livre, mais c'est les ouvrages de François Cointreau. Et il y en a un qui ressort assez souvent, plutôt sur la construction en Pisé. J'ai plus le titre. Et donc après toute cette période-là, on arrive à la révolution industrielle qui fait arriver les nouveaux matériaux, l'acier, le béton, et qui du coup déjà change, apporte une certaine modernité. Et donc et puis il y a aussi l'exode rural qui entre en jeu. Et donc même la brique cuite qui a un important essor. Et donc on commence à réduire la quantité de construction neuve. Mais il y en a encore énormément à l'époque, surtout en ruralité. Après, on va avoir la Première Guerre mondiale qui va faire une importante perte de savoir-faire des hommes, parce qu'en fait, les maçons, artisans, charpentiers, etc., vont être spécialisés dans la confection et la réparation des tranchées, des postes ultra exposés au bombardement, etc., et donc une forte mortalité de ces personnes-là. Donc au sortir de la guerre, beaucoup moins d'artisans en capacité, donc beaucoup moins de savoir-faire. On continue à en construire un petit peu, mais quand même nettement moins qu'avant. Et ensuite, Seconde Guerre mondiale, la construction en général en France se met en pause, voilà. Et en fait, les constructions traditionnelles avec des techniques traditionnelles, que ce soit la terre, mais aussi la pierre sèche, le torchis, le bois, le roseau, enfin les roseaux en toiture, etc. Ça, on le laisse vraiment de côté parce qu'il y a une urgence de la reconstruction qui est massifiée et répondue par les filières de béton armé préfabriqué qui produisent énormément de milliers de logements comme on les voit encore aujourd'hui avec plus ou moins de qualité et dans la matérialité et dans l'architecture proposée. Du coup, pendant 30 ans, on va avoir presque aucune source de construction neuve en terre et ça va être à peu près le même cas pour le bois ou d'autres matériaux techniques traditionnels. Et au début des années 70, il va y avoir un re-questionnement d'étudiants ou de jeunes architectes et ingénieurs, principalement, qui, avec les mouvements de la contre-culture américaine, vont se dire « mais comment on construit, comment on doit habiter ?» Avec aussi la publication du rapport Meadows qui montre un peu les limites planétaires physique et la réalité des chocs du premier choc pétrolier en 73. Donc on va avoir ces jeunes architectes, jeunes ingénieurs vont s'intéresser à ce qui était fait dans le vernaculaire dans le passé, les pratiques beaucoup plus saines en fait et ils vont essayer de réintégrer avec des premières expérimentations, donc retrouver en fait les savoir-faire qui avaient totalement disparu. Il n'y avait plus de personnes qui faisaient par exemple du pisé, moi je connais plutôt le pisé, donc il n'y avait plus personne qui savait faire un mur en pisé, surtout en Rhône-Alpes où cette technique-là est très développée. Et du coup, ils ont essayé avec les anciens, avec les ouvrages de François Cointreau, qui avait théorisé ça, de retrouver la manière dont on fait ça. Et donc ça a donné d'abord, pour la terre crue et notamment le Pisé, la création du laboratoire, l'association puis du laboratoire Cratère. Okay. À Grenoble. Ouais. Et en fait, après, ces fondateurs-là, ils étaient très, très dynamiques et ils ont permis le montage d'une formation d'autres architectes, d'autres ingénieurs. On a un renouveau. Voilà. Ils publient aussi un livre qui est assez important, qui s'appelle « Construire en terre ». Voilà.
Écoute, merci beaucoup. Donc merci beaucoup à Julien qu'on a écouté à l'instant. Donc on peut revenir un peu sur ce qu'il a dit au niveau histoire, sur la perte du savoir.
Ouais, moi je suis cette histoire des charpentiers, des maçons qui faisaient les tranchées. Donc on a envoyé à peu près toutes les personnes qui savaient construire des choses aller se faire bombarder. Ça explique aussi beaucoup pourquoi après on a été obligé de repartir de zéro et qu'on savait plus comment entretenir les bâtiments et faire avec ce qu'on avait autour de nous, quoi.
Ouais, en tout cas, il y a eu la Première Guerre mondiale où il y a vraiment une perte de savoir et la perte des gens en fait qui sont morts. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, j'ai l'impression qu'il y a une perte énorme de bâtiments. Il faut construire très vite, pas de savoir. Du lobby du béton peut-être, ou du ciment.
Lobby du ciment, hein, je crois qu'il y a eu beaucoup de cimenteries qui se sont créées pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire plein de bunkers et des choses pour cacher des sous-marins, tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on a besoin de faire beaucoup d'immeubles, de reconstruire beaucoup de choses. On a des cimenteries.
Bon, ça, c'est le passé. Et on voit bien que dans les années 70, il y a un renouveau par rapport à la construction. En terre crue, les années 70, c'était il y a quand même 50 ans.
Déjà.
Waouh. Mais on n'a toujours pas passé la deuxième, apparemment.
Ouais.
Il y a quoi? Il y a une méfiance envers la terre?
Ouais, il y a pas mal de préjugés, en fait, par rapport à la terre crue, par rapport au fait, justement, que ce soit fragile, est-ce que ça craint la pluie, comment ça fait face... au séisme, s'il y a des dégâts des eaux, ça c'est des questions qui reviennent beaucoup, nous, quand on fait des ateliers. Et du coup, ça c'est un peu les imaginaires collectifs où on a l'impression que c'est un matériel hyper fragile, alors que ça a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Et simplement, on a perdu beaucoup ses savoir-faire, quoi.
Parce que la terre, ça peut un peu tout porter, quoi, en fait. On a vu ça au niveau des grands bâtiments, mais...
Ouais, la terre, ça marche bien pour faire des murs. Ça marche moins bien pour faire des plafonds, ponts. Des ponts. On est méfiant avec la terre. Pourquoi est-ce que nous, quand on montre nos briques, les gens nous demandent « Mais qu'est-ce qui se passe si je la jette par terre ?» Alors que quand ils voient un aglo, ils ne se demandent jamais « Qu'est-ce qui se passe si je le jette par terre ?» On a une sorte de confiance aveugle dans le ciment. Enfin, je dis « on », mais c'est aussi beaucoup de quelque chose qui s'est construit. Dans plusieurs sens du terme, et on a une méfiance de la terre, déjà un peu un rejet. On voit les gens, mais c'est sale, c'est poussiéreux, et c'est fragile en fait. Pour nous, la terre, c'est fragile, c'est aussi pour ça qu'on sensibilise et qu'on fait ce genre d'émission, c'est pour
déconstruire tous ces préjugés-là.
Exactement.
Et c'est aussi parce qu'on est dans une époque aussi où on normalise beaucoup tout. On a des bureaux d'études qui savent très bien calculer le métal, le béton de ciment. Mais la terre, comme on expliquait, il y a tout un tas de terres différentes avec plein de propriétés différentes. Du coup, c'est difficile de créer une recette universelle avec la terre crue. Et donc, ça complexifie un peu tous ces calculs. Et donc, c'est aussi ça la problématique actuelle, c'est qu'on n'a pas forcément des bureaux d'études qui sont formés à ça, que les assureurs aussi, des fois, ils sont frileux à assurer des bâtiments en terre parce que ce n'est pas quelque chose de très courant.
Oui, donc au-delà des bureaux d'études, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? Pourquoi la terre, ça n'a pas marché? Parce que la terre, c'est très dur à industrialiser. On ne peut pas se faire un business sur la terre comme on se fait un business avec... avec le ciment, comme disait Léa, il y a une terre différente par hectare, quoi, en France, par zone géologique. Il y a une terre par maçon, limite, ou maçonne. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas l'industrialiser, on ne peut pas faire d'usine à terre, ou alors c'est très compliqué. ou alors il faut mettre des choses vraiment pas bien dedans. Il y a un lobby qui commence à arriver, on va peut-être en parler plus tard, enfin.
Du coup, j'ai l'impression qu'il y a dans cette histoire un peu une avancée en même temps que la construction de, ou la, on va dire, la fortification de l'État-nation qui veut effectivement construire partout la même chose alors que toutes les terres sont différentes, et un peu une disparition de la construction locale.
Ouais, c'est bien vrai. Déjà, on remarque, on standardise tout, donc la manière de construire aussi. On construit pareil au nord qu'au sud, alors qu'on ne devrait pas forcément faire ça. À l'époque, on faisait ce qui s'appelle l'architecture vernaculaire, donc c'est-à-dire qu'on construisait de manière beaucoup plus logique avec les matériaux qui étaient autour de nous, les matériaux qu'on avait sous les pieds. Donc, par exemple, on n'allait pas construire un bâtiment pareil si on était en zone montagneuse ou en bord de mer, parce que on n'avait pas les mêmes ressources à disposition. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a aussi complètement oublié.
Carrément. Eh bien, écoutez, pour, je pense, aller plus loin dans le fait de déconstruire la construction, plutôt que de lancer une brique de terre crue par terre, vous pouvez chacun aller à Leroy Merlin et tenter de lancer un parpaing par terre pour voir s'il se casse ou pas. Ça permet de déconstruire un peu ces idées reçues. On va écouter un peu de musique et après, on vous reparlera du coup de comparaison entre la terre et le ciment, voir un peu les avantages de l'un et de l'autre. Donc, musique et à tout de suite.
Du coup, vous venez d'entendre une musique d'un groupe local qui s'appelle Hierostan. La musique, c'est Jouer dans les ruines. Et du coup, je fais un petit coucou à mon pote Andy, qui est le batteur du groupe.
Salut Andy.
Et vous êtes toujours bien sur l'émission Ici Radio Terre, sur Radio Galère. Alors, on va vous parler maintenant, faire un comparatif entre le ciment et la terre crue.
Aïe, aïe, aïe. Faites vos paris.
Alors, qu'est-ce qu'on a à en dire sur ce ciment déjà ?
Il y a plusieurs aspects qu'on peut un peu comparer. Du coup, peut-être on peut commencer par comparaison un petit peu sur les aspects écologiques, si ça vous va.
Allez, partons sur ça.
Ouais.
Et du coup, comme on disait tout à l'heure, on a déjà un peu expliqué, mais que le ciment, pour la fabrication en fait, de ce matériau, c'est très polluant, très énergivore, parce qu'on va extraire une ressource, qu'on va chauffer, qu'on va broyer. Du coup, ça produit beaucoup de gaz à effet de serre. Alors que la terre crue, c'est souvent de la terre d'excavation, des chantiers. Donc en fait, c'est une matière qui est déjà disponible, puisque dès qu'on va créer des bâtiments neufs, on va creuser pour faire les fondations.
D'accord. D'ailleurs, je crois que c'est considéré comme un déchet.
Ouais, c'est ça. En fait, on extrait déjà cette terre.
Ouais.
Et on pourrait l'utiliser même sur le chantier en lui-même, sauf que finalement, on va payer pour l'extraire du chantier, l'emmener dans des décharges. On va pas du tout la valoriser, alors qu'en fait, on pourrait en faire quelque chose pour venir importer un autre matériel et venir construire. Donc déjà, ça, c'est un peu étrange comme système, quoi.
C'est d'ailleurs, je crois, au niveau des chiffres, le plus gros déchet par habitant.
Tout à fait. Avec 6 tonnes par an par habitant, c'est le plus gros déchet par habitant en France. Après, à savoir, la terre, c'est très lourd. Et dès qu'on fait un bâtiment, on va creuser pour faire des fondations. Donc, on va enlever ce qu'il y a, donc souvent la terre. Et c'est très lourd, donc c'est beaucoup, beaucoup de camions. Et qu'est-ce qu'on fait de cette terre ? On va faire du remblai, mais on va surtout l'envoyer en décharge ou même reboucher les carrières qu'on a creusées pour sortir la roche. Sortir le calcaire, faire du ciment, ça fait un trou dans la montagne. Avec la terre qu'on a sortie, les camions qui sont allés dans un sens, ils vont aller dans l'autre et re-remplir ce trou. Donc c'est un petit peu un non-sens.
D'ailleurs, pour avoir un peu des images ou des... comment dirais-je ?
Un imaginaire,
enfin clair sur ça. C'est que vous vous rappelez qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps de comme quoi la Suisse vendait de la terre à la France parce qu'elle ne sait pas quoi faire de sa terre, de ce déchet.
Et oui, la Suisse est petite et ils creusent beaucoup, ils construisent beaucoup. Et du coup, la France est à côté. Certaines régions, je sais pas, municipalités qui ont besoin d'argent et qui vont prêter des terrains pour qu'on vienne entreposer de la terre dessus.
Peut-être d'ailleurs que pour savoir que la Suisse creuse beaucoup aussi parce qu'elles ont l'obligation de faire des bunkers anti-atomiques.
Ouais, ils sont méfiants.
Et du coup, ça enlève encore plus de terre. Voilà, mais il y a d'autres avantages ou désavantages, par exemple, du ciment ou de la terre ?
Mais moi, après, du coup, pour continuer dans ces histoires de fondations, c'est vrai que le ciment, pour les fondations, par exemple, c'est quand même la terre crue. On ne peut pas faire de fondation en terre crue, sinon ça redevient de la terre. Donc le ciment, c'est quand même pas mal pour...
Mais car du coup, les fondations, soubassements...
Fondations, soubassements, ça résiste à l'eau. Donc même dans des milieux très humides, très sous terre, ça garde ses propriétés, contrairement à la terre crue.
Oui, mais là, je me permets de m'inscrire en faux. Il me semble qu'avec le réchauffement climatique, quand même, il fait de plus en plus chaud et de plus en plus froid, et qu'on des fois construit sur des sols qui peuvent gonfler et dégonfler à cause de l'argile. Est-ce que le ciment, ça va marcher pour ça ?
Mais en fait, c'est pas trop gênant. Oui, effectivement, le ciment, ça va moins suivre les mouvements de terrain. Mais comme on expliquait tout à l'heure, il faut quand même, avec la construction en terre crue, des bonnes bottes et un bon chapeau. Donc dans tous les cas, en fait, on ne peut pas construire en terre crue à même notre sol. Donc il faudra penser à des soubassements et à des fondations. Après, ce n'est pas forcément obligatoirement du ciment. Ça peut être fondation cyclopéenne. Donc c'est avec des pierres qui vont être liées par de la chaux. Donc ça, c'est possible aussi de faire ça. Mais il faut savoir mettre les bons matériaux aux bons endroits. Et donc... Parfois, il faut savoir utiliser quand même un peu du ciment quand c'est nécessaire. Mais voilà, on n'est pas obligé de faire tout notre bâtiment en entier avec ce matériau, mais juste la partie des fondations ou des soubassements.
Et oui, ça dépend de la fondation. C'est sûr, dans des sols qui bougent beaucoup, le ciment, ça va pas bien réagir. Après, tu peux faire, par exemple, plutôt des plots en ciment que toute ta semelle, comme on dit, en ciment d'une seule traite. Tu vas faire des plots. Donc là, tu vas déjà avoir plus de souplesse quand le terrain va bouger. Et après, voilà, c'est pour un peu faire l'avocat du diable, mais c'est pour dire qu'on n'est pas non plus des anti-ciments. Il y a aussi toute la partie économique, c'est quand même moins cher. Enfin, le ciment, malheureusement, c'est très abordable puisqu'il y a des cimenteries partout. Souvent, c'est... Il y a moins de transport que d'autres matériaux, puisqu'il y a souvent des cimenteries, encore une fois, il y a des cimenteries partout, donc le transport, il est moindre. Et voilà, et encore une dernière chose, pour le ciment, ça va bien avec l'acier et le béton armé, donc c'est pas mal pour faire des ponts. Mais pareil, quand on fait de sa maison en béton armé, ça, on aime bien dire que c'est comme si on allait acheter le pain en Ferrari. Ça c'est un peu de la frime. Non, c'est surdimensionné, quoi.
Ouais, complètement. Et c'est vrai que la terre crue, ce qu'on disait, souvent il y en a un peu partout. Donc l'intérêt, c'est que c'est pareil, ça reste quand même assez local. Par contre, ce serait une aberration en fait de vouloir faire venir de la terre de plus de 100 km de où on est. Parce qu'en fait, pareil, c'est très lourd. Et donc là, ce serait une énorme dépense énergétique au niveau du transport.
Donc si je comprends bien la logique, là, pour l'instant, c'est de voir un peu la terre qu'il y a sous nos pieds pour savoir comment on va construire, de ne pas faire venir une terre de très loin pour savoir comment on va construire.
Exactement. On dit que c'est la matière qui dicte la méthode. Donc c'est aussi, même sur le plan philosophique, c'est une belle leçon d'humilité. C'est que c'est plus nous qui décidons, qui imposons notre façon de construire à l'environnement. C'est l'environnement qui nous dit comment il faut construire.
Et après, pour passer à un autre aspect écologique et intéressant au niveau de la terre crue, c'est que c'est une matière qui est réemployable à l'infini. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas avec le ciment, par exemple. Donc là, si on construit un mur, qu'on fait un enduit, ou etc., et qui s'abîme, qui s'érode, en fait, on va pouvoir récupérer notre matière et la remettre en œuvre. Donc ça, c'est quand même un avantage assez intéressant, et ça dit aussi que ce type de construction laisse assez peu d'impact environnemental après coup, quoi.
Oui, parce que par exemple, c'est vrai que dans ce qu'on parlait tout à l'heure, les logiques qu'on nous a mis dans la tête, il y a la peur de dire la terre crue, peut-être que c'est pas très bien pour le côté sismique, est-ce que ça tient ou pas. Apparemment, il y a des techniques pour ça. Et en même temps, une fois que le bâtiment a eu des problèmes, qu'il a pu être endommagé, en fait, en terre, on peut le réparer.
Ben c'est ça, c'est la réparabilité. Maintenant, on aime bien pour les smartphones parler de la réparabilité. Pour la terre crue, c'est pareil. Enfin, pour le bâtiment, c'est pareil. On peut faire des choses qui sont plus ou moins réparables. Et le ciment, une fois que c'est fissuré, que c'est cassé, qu'il y a un dégât, même dégât des eaux, des choses comme ça, on est bien embêté. Et après, même à la démolition, qu'est-ce qu'on fait des déchets ? On va faire du gravat de mauvaise qualité qu'on va enterrer et qui va être nocif pour l'environnement. Alors que la terre crue, qu'est-ce qu'on fait si on a un dégât des eaux ? Qu'est-ce qu'on fait si on a endommagé notre mur ? On récupère, on remouille et on refait, quoi. Et ça peut être à l'infini. Et une fois qu'on aura tous et toutes disparu, y aura plus si on avait tout fait en terre, il n'y aurait plus aucune trace et donc plus aucun impact.
Ouais. Ça me rend très triste de me dire que tous les bâtiments en ciment, on va les jeter. Passer. Ça me rappelle comme mes jouets en plastique qui se cassaient, après on ne peut pas les réparer.
Ben ouais, alors qu'on a des jouets en terre.
Et ça, c'est un gros problème à l'heure actuelle. Hein, c'est qu'on commence à avoir des bâtiments en fait, hyper vieillissants qui ont tous été construits justement à l'après-guerre et qui vieillissent très très mal. Et on les démolit pour en construire d'autres. Et en fait, tous ces déchets... on ne sait pas quoi en faire. En fait, c'est des déchets de santé, tout ce ciment. Donc, en général, c'est broyé. Voilà, on essaye de faire du remblai, des trucs avec, mais on ne sait pas vraiment recycler tout ça. Donc, ça reste un gros problème aussi.
Et là où on tourne l'émission en ce moment, on est dans un bâtiment qui est plutôt en ciment. Il y a des avantages ou des inconvénients à le fait qu'il soit en ciment en termes de confort ?
Avantage, ouais, je peux écouter la télé de mon voisin sans avoir de télé, donc c'est plutôt pratique.
Sans payer la redevance, effectivement.
Voilà, pas besoin, c'est très, très convivial aussi, j'entends le voisin du haut, le voisin du bas, on se parle à travers les cloisons. oui, il fait froid l'hiver, chaud l'été.
Et ça, la terre crue, ça... Si on parle déjà en premier du côté sonore.
Ah oui. La terre crue, c'est un très très bon isolant acoustique. Ça marche très bien, ça empêche les pièces de résonner et le son de passer.
Ok. Et au niveau de l'hiver et de l'été, il y a des conforts particuliers ?
Ouais, la terre crue, c'est plutôt bien pour le confort d'été. Puisque c'est un matériau qui est très lourd. Et du coup, ça va permettre d'emmagasiner la chaleur et de la restituer quand justement aux heures un peu fraîches. Donc en fait, la journée, le soleil va taper contre notre paroi, la chaleur va rester entre guillemets enfermée dans notre matériau, et quand la nuit va tomber, elle va restituer cette chaleur-là. Donc ça, en fait, ça va permettre un peu de lisser les températures. Donc c'est assez intéressant sur cet aspect-là.
Ok, et l'hiver, ça a l'intérêt ?
Carrément, l'hiver, ça, ben, c'est un peu la même chose. Ça va capter la chaleur du soleil en journée et la restituer. Et ça va aussi capter la chaleur qu'on émet de l'intérieur, donc le chauffage. Donc on va moins chauffer, puisque là, en tout cas, quand on va arrêter de chauffer, la terre crue qui est présente dans le bâtiment va continuer à irradier, à rayonner. Ouais. Et donc on va utiliser moins d'énergie.
Okay,
on utilise souvent la terre crue, par exemple. C'est pas mal d'utiliser derrière des systèmes de chaleur, par exemple derrière un poêle, pour reproduire un peu ces effets de poêle de masse. Et du coup, de permettre d'emmagasiner la chaleur et de venir la restituer un peu plus tard. Et du coup, de moins consommer de chauffage.
Ce qui veut dire que donc, quand j'allume mon chauffage et je fais monter la température de ma pièce... En fait, quand je coupe mon chauffage, la température ne rebaisse pas directement. Il y a en fait le mur qui continue à rester chaud et l'ensemble de la maison qui continue un peu à chauffer d'elle-même.
Exactement. Et à l'inverse, l'été, en fait, la nuit, la température va baisser. Et quand le soleil va commencer à taper fort, ben, l'intérieur ne sera pas encore chaud parce que c'est la terre qui va en fait faire servir de tampon. Donc dehors, il fera très chaud, mais à l'intérieur, il fera encore frais. C'est ce qu'on appelle le déphasage.
C'est l'inertie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement cette sensation un peu... par exemple, là, ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans un immeuble en béton. On a cette histoire de ressenti où si on touche notre paroi, le mur, il va être froid. Donc, on va avoir une sensation de froid plus rapidement. Alors que justement, les murs en terre crue, on n'a pas cette sensation puisque le mur, il va être, entre guillemets, à température ambiante. Et donc, on n'aura pas cette sensation... De froid, donc ça fait un confort aussi de vie qui est plus agréable.
Ok. Ça me paraît déjà pas mal d'avantages.
Ouais, on n'a pas tout dit. Il y a aussi la régulation de l'humidité qui est super importante et qui est dans le bâtiment, dans la rénovation de l'ancien. Voilà, tout ce qui est cette histoire de moisissure ou de condensation sur les vitres.
Attends, tu veux dire que les trucs noirs, que les champignons que j'ai chez moi, ça n'existerait pas avec de la terre ?
C'est pas bon, ouais. Ça n'existerait pas avec de la terre, ouais. Okay. Enfin, ça dépend les champignons. Je sais pas où tu vis. Enfin, bref, les auditeurs et les auditrices savent pas, mais c'est pas la solution à tout, mais oui, ça, c'est un très bon régulateur d'humidité. Après, voilà, il faut bien le mettre en œuvre, il faut que tout respire, perspire, on dit, mais... Ouais, c'est encore un très grand avantage de la terre crue. Et ça permet de... Comment dire ? L'argile, elle est toujours active. Et en fait, donc cette régulation de l'humidité, quand c'est trop humide, ça va absorber. Et un peu comme la chaleur, quand c'est trop sec, ça va restituer le trop-plein.
Okay.
Et du coup, l'important, c'est de savoir les bonnes mises en œuvre, justement, pour ne pas créer des pathologies dans les bâtiments en terre crue. Et c'est là où il y a eu des soucis, par exemple... On parlait tout à l'heure du quartier de la Croix-Rousse, qui a été beaucoup construit en terre crue, et où aujourd'hui, en fait, ils décroutent les façades parce qu'il y a eu des enduits en ciment qui ont été faits par-dessus.
Quand tu dis décrouter, ça veut dire...
On vient retirer l'enduit en ciment,
donc
l'enduit
extérieur. Okay.
Parce que justement, on ne permettait plus aux matériaux de respirer, et donc, en fait, ça crée des pathologies à l'intérieur du mur, puisque, en fait... Les flux de vapeur, etc., ils ne pouvaient pas partir. Donc, c'est des matériaux qui sont très intéressants pour avoir un bon confort, mais il faut bien les mettre en œuvre parce que sinon, on peut aussi créer des pathologies.
Et du coup, ça revient un peu au truc des préjugés, de la mauvaise image qu'on a à la terre crue. C'est qu'il y a aussi toute une partie, je pense, des bâtiments en France qui étaient en terre crue et qui se comportaient très bien. Et on est venu, en fait, goudronner, faire des trottoirs, faire beaucoup de goudron, de ciment tout autour d'eux. Et du coup, l'eau n'avait plus d'endroit pour s'échapper. Avant, les ruelles et tout, c'était des pavés, c'était la terre battue. Donc, comme on disait au début, il faut que l'eau trouve son chemin.
C'était drainant, quoi.
Donc, tant que l'eau trouvait son chemin, c'était bien. Puis on a commencé à faire à goudronner, à faire des routes, à faire des choses en ciment autour. Et du coup, l'eau avait cherché un moyen de s'échapper, commençait à remonter dans les murs des bâtiments en terre crue. Puisque, comme on dit, c'est l'eau réagit avec la terre crue. Et donc on a commencé à avoir des bâtiments qui commençaient à avoir des désordres, comme on dit. Mais on ne savait pas, en fait, pourquoi le... vu que le savoir-faire était perdu, pourquoi le bâtiment, d'un coup, pourquoi mon mur, il devient noir, il est plus bon. Et en fait, on a commencé à faire des enduits en ciment dessus, parce qu'on avait que le ciment. On s'est dit, bon, on va mettre du ciment dessus. Donc, on venait étaler une fine couche de ciment sur le mur pour réparer, entre guillemets, mais c'était un cache-misère. Et du coup, les dégâts devenaient de plus en plus importants. L'eau essayait de remonter encore plus. Et du coup, on s'est dit, non, le bâtiment, la terre crue, ça marche pas, quoi.
Ok, donc en fait, on a mis sur un matériel qui semblait, entre guillemets, respirer ou être vivant, un ciment qui l'enfermait dans sa propre humidité, voilà. Et qui le faisait moisir dans un tombeau de ciment.
Il y a tout un truc dans le bâtiment sur les circuits de vapeur d'eau, ce qu'on dit la perspirance. Donc il faut que l'eau trouve, c'est toujours cette histoire d'eau, il faut qu'elle trouve son chemin. Et le ciment, effectivement, ça ne laisse pas passer la vapeur d'eau, donc ça crée des choses étanches et c'est pas très bon.
Du coup, on a pas mal parlé là des aspects écologiques, mais il y a aussi d'autres aspects assez intéressants qu'on pourrait comparer. Et notamment, il y a l'aspect aussi social, en fait, des constructions en ciment ou en terre crue.
Oui. Apparemment, il y avait aussi un aspect, comme tu le disais, vis-à-vis des industriels, le fait d'être autonome, plus indépendant, de pouvoir, ne pas avoir à acheter son matériel chez Saint-Gobain ou
Leroy. Ça plaît pas, ça.
Et voilà, et du coup, de le faire avec ce qu'on a sous les pieds et les matériaux, et de le faire collectivement, de le faire ensemble.
Ouais, on parle de réappropriation de la construction, enfin en tout cas que ce soit plus quelque chose d'extérieur qu'on... Nous, je sais pas faire, je sais pas planter un clou, je sais pas faire un enduit, avec la terre crue, c'est quelque chose de très accessible.
L'avantage avec la terre crue, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de forcément beaucoup d'outils mécaniques, industriels ou autres. On peut s'aider de ces techniques-là, mais ce n'est pas une nécessité. Et donc, ça permet en fait, à chacun de pouvoir en fait, se réapproprier ses savoir-faire, de gagner en, fait, en autonomie et de faire avec la terre crue, de vraiment pouvoir construire, rénover, etc. C'est des techniques qui sont assez facilement transmissibles. Simplement, souvent, ça demande en fait d'être nombreux. Et donc, c'est à la fois un aspect positif parce que du coup, ça fait des chantiers qui peuvent être très participatifs, agréables et conviviales parce que si on n'a pas beaucoup de machines, on n'a pas de casque. Vu que c'est des produits qui sont pas polluants ou néfastes pour la santé, on va pas travailler avec des masques ou ce genre de choses là. Mais par contre, c'est vrai que ça demande pas mal d'énergie humaine.
Du coup, à travers ça, il y a une espèce de retour au collectif ou à la communauté en prenant en charge l'habitat. Donc, comment on habite, il y a différentes personnes qui peuvent y participer parce que c'est non polluant. Peut-être qu'il y a le fait que ce soit un peu lourd la terre et qu'il faut trouver des façons de mettre en œuvre pour que chacun puisse le faire, mais même les enfants pourraient participer, quoi.
Ben oui, puis on a tendance à oublier que l'habitat, c'est quand même un bien de subsistance, au même titre que l'eau et que la nourriture. Je crois que l'ONU déclare que le logement est un droit fondamental, en fait, que chaque être humain, normalement, devrait avoir un toit sur la tête. Donc, qui dit bien de subsistance dit collectivisation qui dit collectivisation dit réappropriation de la production du bâti. Et voilà.
Et ce qui est intéressant aussi avec ce matériau, la terre crue, c'est que le coût en lui-même de cette matière, terre crue, il est moindre parce qu'en fait, on en trouve partout. Il suffit d'aller sur le Bon Coin, de taper Donne terre et on trouve des tonnes d'annonces. Donc après, il faut bien vérifier que c'est pas de la terre végétale, il faut faire des petits tests, mais qui s'apprennent très rapidement, qui sont un peu empiriques. Et à partir de là, on peut construire pas mal de choses avec un minimum de savoir-faire. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que ça rend aussi ces techniques accessibles à pas mal de monde.
Mais là, tu viens de donner tout notre secret, du coup, on va plus vendre de briques, Léa.
Car oui, vous êtes bien sûr l'émission Radio Terre fait par la briqueterie Radio Terre. On va finir un peu sur les côtés esthétiques de la terre, parce que est-ce que c'est vraiment joli? C'est pas un peu une couleur de merde de la terre?
Ça dépend de la terre, ça dépend de ce que t'as fait avec ton mélange avant de faire les briques.
Mais c'est vrai que aujourd'hui on a des espèces d'envie esthétique, on va dire, on est dans des choses très lissées, des murs très lisses, des fois des choses très blanches, etc.
Très droites.
Très droites, mais c'est vrai que la terre, en fait, c'est un vrai terrain de jeu, donc en fait on peut faire pas mal de choses. Déjà, il existe une variété de terres différentes avec des couleurs différentes. Donc on va pouvoir avoir des terres très claires, très foncées, très ocre, très jaunes.
C'est-à-dire la terre blanche, par exemple.
Il existe des argiles blanches, après c'est quand même pas le plus courant. Mais par contre, on peut aussi faire un enduit à la terre et après venir par-dessus faire un badigeon à la chaux pour avoir un aspect blanc, par exemple. C'est possible.
Okay.
Mais la terre en elle-même existe déjà en plein de couleurs variées.
On peut jouer sur les textures aussi.
Ouais, on peut jouer sur les textures, on peut faire des motifs dans la terre, on peut, en fait, c'est un peu infini.
D'ailleurs, on avait vu aussi dans une vidéo qu'une petite salle de bain ronde, parce qu'on peut faire des arrondis avec la terre.
Eh oui, on peut faire plein de formes.
Pas obligé de faire des angles droits, quoi.
Mais ouais. Ouais, c'est souvent rond la terre, et aussi c'est parce que quand on fait des angles justement trop droits, la terre, ça a tendance quand même à se casser. Enfin, dans les angles, c'est des points de fragilité, donc c'est aussi pour ça qu'on fait des arrondis, c'est pas juste pour faire joli. Mais oui, ça permet tout un champ de possible, laisser place à la créativité de chacun et de chacune.
Eh bien écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal de matière pour réussir à imaginer ce que peut être une maison en terre, et pourquoi pas en faire une.
Allez, c'est parti.
On vous attend à la briqueterie, alors...
Est-ce que tu peux nous situer un peu la briqueterie?
Oui, alors on se situe dans le 11e arrondissement de Marseille, pas très loin de la Valentine, à la frontière avec La Penne-sur-Yvonne. On vous attend, si vous voulez nous rendre visite. On est quand même assez souvent là-bas, mais c'est bien sinon de vous envoyer un petit message sur les réseaux.
Carrément, on est une petite briqueterie artisanale, on fait des briques moulées à la main, juste avec des boules en bois, quoi, sans machine. Et on veut pas juste vendre des briques, on veut partager justement ce savoir, c'est aussi ce qu'on fait à travers cette émission.
Et à travers des ateliers aussi, voilà, de sensibilisation.
Et on est toujours ouvert à tout renseignement, questions, propositions,
voilà.
Contrats, devis...
Donc on avait dit qu'on ne ferait pas de lobby, mais finalement on en fait un petit peu. Vous pouvez retrouver différentes informations sur le site Rats de Terre. C'est comment du coup?
Rats de Terre sur Google.
Normalement on le trouve Rats, R-A-Z, ouais. Comme le rat de marée, parce que c'est la submersion de la terre par-dessus la ville.
Voilà, R-A-Z-D-E-T-E-2-R-E. Eh bien merci beaucoup aux auditeurs d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous êtes convaincus par la terre crue. On fera d'autres émissions avec des invités. Écoutez, on finit sur une musique ou un générique, et puis bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et donc vous pouvez retrouver l'émission, préparez-vous parce que c'est compliqué à retenir. Donc le mardi de 11h à midi, le deuxième mardi du mois, mais un mois sur deux. Voilà, c'est pas compliqué quand même.
Et sinon, vous pouvez retrouver l'information sur la programmation sur le site de Radio Galère.
Ainsi que le podcast. Me na dark, me your man, me na cut. Me nice, me na rat. No flavors, me got. We got flavor, we na flat. So listen, it's your butt, son. Please hear that. Me lunch, me na fat, me bright, me na dark. Me boy, me na cut, me nice, me na rat. No flavors, me got flavor, we na flat. Me sing, me na chat, you a call me a art. Original pop, a Jimbo rock. No flavors, yes, me have been stuck. Some a call me doctor, a doc. This is my job, this is my work. Work, 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 work. Job, job, job.
job, 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 job,